Oui, Seigneur, nous te prions, comme nous le faisons tous les dimanches avant d'écouter ta parole, pour que cette parole véritablement nous pénètre, pour que nous ne soyons pas égarés dans nos raisonnements, dans nos réflexions à propos de cette parole. Tu sais combien nos cœurs sont parfois tordus, nos pensées sont tordues, et combien nous aimerions parfois faire correspondre ta parole à nos propres idées, nos propres sentiments, nos propres désirs. Mais Seigneur, nous voulons que ta parole nous façonne, comme il est dit précisément dans ta parole, elle nous façonne comme le vase entre les mains du potier. Alors viens nous enseigner, Seigneur, maintenant. Nous t'en prions. Amen. Voilà, comme vous l'a expliqué Daniel, le thème général du culte aujourd'hui, c'est... Oui, enfin moi ça me va, mais si vous avez besoin de lumière, voilà. Voilà, c'était pour qu'on ait une meilleure image pour la vidéo, mais maintenant pour la vidéo, c'est fini. Voilà. Donc, oui, je disais, comme Daniel nous l'a précisé, c'est le thème... Il ne nous est pas, non pas imposé, mais proposé de façon à ce qu'on ait, dans l'ensemble de l'UNEPREF, notre union d'église, un culte commun. Alors, non pas un culte en commun, hein, on est chacun dans son église, surtout par ces temps de Covid, on ne va pas trop se mélanger, mais un culte commun, c'est-à-dire que, sachez que dans toutes les églises, il y en a une bonne cinquantaine, je crois, dans toutes les églises de l'UNEPREF, eh bien, ce matin, on partage le même texte biblique. Du moins pour ceux qui jouent le jeu, il y a peut-être des églises qui n'ont pas voulu suivre, hein, je ne sais pas. Je l'ignore. Et puis la même méditation, et voilà. Alors, le texte, eh bien, il se situe dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Alors, il nous a été proposé un texte un petit peu étriqué, alors moi je l'ai élargi, hein, mais on va bien lire le texte proposé. On va commencer au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Et ensuite, on enchaînera sur le 3, bien sûr, jusqu'à la fin du 3. Ça fait pas très long, hein, n'ayez pas peur. Voilà, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. L'Évangile dont je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Le verset qui suit, écoutez bien. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons, à lui soit la gloire, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Alors, les écrits de Paul, c'est toujours un petit peu touffu. Il a des phrases avec des parenthèses et des rallonges, on finit par oublier le début de la phrase, on ne comprend pas bien la fin parce qu'on n'arrive pas à recoller. Donc, c'est certain que ça demande explication. Si ce n'était pas le cas, à la limite, je dirais, il n'y a pas besoin de méditer, tout est dit. Mais c'est tellement touffu qu'il faut évidemment délier un peu tout ça. Alors, en effet, on a l'impression que... Enfin, l'impression, ce n'est pas une impression. On a le sentiment, mais bien sûr, que... Paul explique aux Éphésiens qu'ils sont bel et bien rentrés dans la famille de Dieu. Parmi ces premiers versets que je vous ai lus, hein, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Première question qu'on se pose, c'est pourquoi Paul éprouve-t-il le besoin de dire ça aux Éphésiens ? C'est une jeune église qui vient avec des nouveaux convertis. Il a l'air d'insister sur ça. Hein. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Alors il faut quand même comprendre que pour l'époque, eh bien, c'était pas évident. C'était au tout début de l'Église chrétienne. Et que des païens puissent s'approprier, alors je ne sais pas si le terme est justement approprié, puissent, comment dire, se sentir aimés du Dieu des Juifs, c'est une véritable révolution. Hein. Il faut bien comprendre. D'ailleurs, pour les Juifs, c'est aussi... une grosse interrogation, il dit mais comment les même Pierre un temps, il dit mais comment les païens pourraient-ils, nous sommes le peuple élu, on a bien compris ça, depuis Moïse, on a compris que le Seigneur s'est mis un peuple à part et les autres sont rejetés, enfin dans leur esprit c'était ça. Donc Paul explique soigneusement que désormais il n'y a plus ni juif ni grec, hein, comme il dit dans d'autres épîtres, désormais tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est le Seigneur et qui donne leur vie, tout simplement, qui se convertissent à Jésus-Christ, à l'évangile de Jésus-Christ, et qui se font baptiser, désormais, tous ceux-là sont membres de la famille de Dieu. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de la famille de Thiers, ici, la famille de l'église de Thiers, on parle éventuellement de l'église, on a vu cette vidéo, on a vu toutes sortes d'églises de l'une et presque, qui est notre union d'église. Bon. Mais là, aujourd'hui, pour ma prédication, on parle de la famille mondiale, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde font partie de la grande famille, qui maintenant est grande, mais à l'époque, qui n'était pas très grande. Hein. C'était tout début. Et alors, voilà, et ça, déjà, il faut bien le comprendre. Il est possible que les Éphésiens faisaient un petit complexe d'infériorité. C'est-à-dire, oui, nous acceptons, nous avons compris le message de l'Évangile, nous l'approprions, mais... Nous ne sommes pas juifs, hein, alors on est des chrétiens de deuxième catégorie, en quelque sorte. Non, dit Paul, vous êtes concitoyens de tous les saints et membres de la famille de Dieu. Voilà une première chose. Au fait, on pourrait aussi se poser, deuxième question, les non-croyants, ils ne font pas partie de la famille de Dieu. Alors, on peut poser la question, hein. Les non-croyants, ceux qui n'ont, alors peut-être tout simplement, bien sûr, ceux qui ont rejeté l'Évangile, mais peut-être ceux aussi qui ne l'ont pas encore reçu, pas entendu, qui n'ont pas eu l'occasion, le loisir de recevoir cette parole de bonne nouvelle. Pour Paul, évidemment, ils ne font pas partie de la famille de Dieu, mais pourquoi, après tout, ne sont-ils pas des créatures de Dieu ? Ne sont-ils pas aimés de Dieu ? Alors il y a un indice là intéressant d'ailleurs, au verset 14 du chapitre 3. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Alors, la question reste posée. Pourquoi seraient-ils exclus de la famille de Dieu ? Il faut faire la distinction. Bien sûr que ce verset 14, dans ce verset 14, Paul fait une sorte de jeu de mots, hein, parce qu'il vient de parler du père, c'est pater, et après le mot famille, c'est patria. Alors, il y a un jeu de mots, pater, patria. Et effectivement, il souligne le fait qu'il y a une sorte d'universalité de l'amour de Dieu au titre de la grâce commune. Je ne vous rappelle pas ce que c'est que la grâce commune, hein, c'est, enfin, je vous le rappelle quand même, c'est la grâce dont tous les hommes bénéficient, qu'ils soient chrétiens ou pas. Donc il y a quand même, il ne faut pas le perdre de vue. Bien sûr, les païens, les non-croyants ne sont pas de la famille, ils sont invités à rentrer dans la grande famille de Dieu. Ils n'y sont pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont délaissés de Dieu. Voilà, hein, donc on garde ça à l'esprit et on va pouvoir avancer. Alors donc, Paul explique aux Éphésiens, donc, qui sont désormais pleinement intégrés dans la famille de Dieu, et ensuite, dans un deuxième temps, il leur explique qu'est-ce que ça va leur apporter, de quoi vont-ils bénéficier en tant que membres de la famille de Dieu. Alors, là j'ai eu du mal, je vais vous dire, hein, parce que j'ai relu le texte, et je me suis rendu compte qu'il y a tout un vocabulaire dans ce texte, qui est, je peux vous citer des versets comme ça rapidement, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, etc. Vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Paul n'est pas en train de dire je suis intelligent, il dit c'est la compréhension, la connaissance que j'ai du mystère du Christ. Que vous soyez enraciné, fondé dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints, etc. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et là, je me suis dit, ça y est, le fil directeur dans ce texte, c'est la connaissance. Paul explique aux Éphésiens que, en étant désormais dans la famille de Dieu, ils vont accéder à une connaissance. Alors, le mot connaissance, dans la Bible, il a vraiment un sens très, très fort, très particulier aussi. Il ne faut pas se tromper. Une connaissance, un savoir, une sagesse. Les mots sont très variés, mais ça revient toujours à cette notion de connaissance, de passer de l'état où on ignore les choses. Et c'est le cas des non-croyants. Les non-croyants, même s'ils ont reçu l'évangile et qu'ils l'ont rejeté, ils ignorent quelque chose. Alors quoi ? Attendez, n'allez pas trop vite, on va voir ça tout à l'heure. Ils ignorent quelque chose. Et lorsque les non-croyants font le pas de la foi et deviennent croyants, ils accèdent à une connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une chose, cette fameuse chose, ils ne l'ignorent plus, et là, ça transforme leur vie. C'est un... Bah, je m'excuse, je le traduis très mal, mais c'est ce que je ressens de ce texte aux Éphésiens. Donc, une connaissance. De quoi ? Tiens, si je posais la question, est-ce que quelqu'un aurait une idée ? La connaissance de quoi exactement ? En un seul mot.
De Jésus.
Non.
De l'amour.
L'amour. Oui, oui. Si je relisais le texte, maintenant vous verriez, ça vous sauterait aux oreilles. C'est connaissance de la dimension de l'amour de Jésus. Vous voyez, je me suis par exemple, là pour le coup, comme je devais prêcher sur ce texte, alors, non mais... Tu n'iras pas au piqué, Daniel. Connaissance de Jésus, c'est clair. Mais là, précisément, c'est connaissance, connaître l'amour de Jésus pour le monde. On a en particulier ce passage que vous avez tous entendu des dizaines et des dizaines de fois, et que peut-être comme moi, vous n'avez jamais vraiment compris à fond. Alors je dis, pour le coup, c'est moi qui prêche là-dessus, je suis bien obligé de travailler, de donner une explication. C'est ce passage qui dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mais est-ce que Paul, il se prend pour un professeur de géométrie, là ? Qu'est-ce que c'est ? Il parle de quoi ? Oui, mais c'est pas, il n'est pas marqué amour de Dieu. Hein, il parle de la largeur, la profondeur, la hauteur, la largeur.
C'est
il parle d'un volume. S'il avait parlé que de la largeur et de la longueur, ce serait une surface. Mais là, il parle d'un volume. Et qui dit volume, dit capacité. Vous voyez ? Hein ? Si vous dites quel est le volume de ma baignoire, ben, c'est 200 litres. Ou 150, je ne sais pas. Quel est le volume, bon, d'une cathédrale ? Pour savoir le volume d'une cathédrale, c'est grand. Vous rentrez et vous allez évaluer au coup d'œil la longueur de la cathédrale, la largeur, la hauteur, et, hein, bon, la profondeur, c'est-à-dire c'est de haut en bas. Hein. Et parlant de ce volume, il fait allusion à l'immensité de l'amour de Dieu qui peut accueillir l'humanité tout entière. Alors c'est très intéressant parce que il introduit cette notion comme quoi personne n'est capable d'évaluer ce volume. Personne ne peut constater l'immensité de cette capacité de Dieu à aimer tous les hommes. C'est-à-dire que cet amour de Dieu pour les hommes, il est infini. Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il y avait de plus cher pour lui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, non, etc., etc. Vous connaissez le verset, Jean 3,7. Et la connaissance que nous permet l'entrée dans la famille de Dieu, c'est celle-là. Connaître l'amour de Dieu. Il y a un verset qui est tout à fait caractéristique pour ça. De connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute connaissance, c'est-à-dire toute connaissance humaine. L'homme à l'état pur, il est incapable, je le répète encore une fois, incapable de mesurer et d'évaluer la capacité de l'amour de Dieu. Mais par contre, lorsqu'il a fait le pas de la foi, alors il y a quand même chronologiquement un ordre. D'abord le pas de la foi, c'est-à-dire sans avoir reçu encore de connaissance. À l'instant où l'homme fait le pas de la foi, il est dans la famille de Dieu. Et à partir du moment où il est membre de la famille de Dieu, il va recevoir, parfois progressivement et parfois d'un seul coup, il va recevoir cette connaissance qui va lui permettre d'apprécier, d'évaluer, de constater l'immensité de l'amour de Dieu pour lui. Vous voyez, le processus est quand même très surprenant dans, comme il est présenté par Paul aux Éphésiens. Et quand je dis phénoménal, un volume fantastique, je ne crois pas si bien dire. Vous avez au dernier verset qu'on a lu, ou l'avant-dernier, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ben, rien que ce verset, il révèle quoi ? Il révèle que, peut-être même que même dans la famille de Dieu, même en étant des vieux chrétiens, en ayant expérimenté l'amour de Dieu depuis des années et des années, et ben, même là encore, on n'arrive pas encore à apprécier vraiment le volume, la capacité de Dieu à nous aimer. Alors, tout ceci est fort intéressant parce que c'est vrai que tout chrétien que nous sommes, nous sommes toujours sur terre, hein, avec les petites misères ou les grandes misères, avec les difficultés, avec une vie d'église, donc une vie de famille qui n'est pas toujours facile. Pas toujours facile, il y a des tiraillements dans toutes les familles. Hein, il y a des... Bon. Et tout ceci peut nous amener à un certain découragement, une certaine lassitude. Et là, quand on lit ce texte, on dit que là, Paul, il a compris quelque chose et il le partage. C'est l'immensité de cet amour du Christ qui va englober tout. D'abord tous les hommes, mais également l'étendue de leurs péchés, du moment qu'ils s'en repentent. Bien sûr, il ne s'agit pas de continuer à pécher allègrement hein, en disant « ça va, Dieu il a les épaules larges, il avale tout ». Non. Mais voilà, il est tendu. Alors, pour concrétiser un peu ça, je me suis dit « qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ?» Ben, je ne vais pas aller chercher très loin. J'ai pris la conversion de Paul lui-même, celui qui a écrit cette lettre aux Éphésiens. Regardez bien, alors j'ai relu, c'est le chapitre 9, je ne vais pas vous le lire, hein, mais... Je l'ouvre là pour ne pas dire des bêtises. Hein, chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres. qu'on appelle conversion de Saul, puisqu'à l'époque il s'appelait Saul. Alors vous connaissez l'histoire, il était persécuteur de l'Église, hein, c'était terrible, terrible. Et il pensait rendre gloire à Dieu en persécutant les chrétiens. Bon, et puis un jour il part vers Damas, et sur le chemin de Damas, Jésus se révèle à lui de façon violente. Il tombe par terre, il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Ah, qui es-tu, Seigneur ?» Il est tout sidéré, bien sûr. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Bon. Est-ce que Paul se convertit à ce moment-là ? Non. Pourtant, vous voyez, Jésus se révèle à lui. Je suis Jésus, celui que... Il précise, parce que des Jésus, il y en avait peut-être beaucoup. Hein. Je suis le Jésus, le Christ, celui que tu persécutes. Bon, en plus, il tombe aveugle. C'est-à-dire que la lumière éblouissante l'a aveuglé, il est aveugle. Et pendant 3 jours, alors on l'amène à Damas, dans une maison d'un certain Judas, et pendant 3 jours, il est aveugle, et il ne mange ni ne boit, dit le texte. Tiens, 3 jours, descente aux enfers, ça ne vous rappelle pas quelque chose, c'est intéressant ça, il faudrait creuser, c'est toujours par 3 là que ça marche, hein. 3 jours de descente aux enfers. Il est aux enfers, il ne mange pas, il ne boit pas, il est aveugle. Ça a dû turbiner sec hein, dans la petite tête de Paul, hein, de Saul, qui s'appelait Saul à ce moment-là, c'est un peu plus tard qu'il s'appelle Paul. Bon, là-dessus, le Seigneur prend les choses en main et lui envoie Ananias, un certain Ananias. Et alors, regardez comme c'est intéressant. Ananias, quand il rentre dans la maison, il lui impose les mains et il lui dit « Saul, mon frère ». Et bien là, il vient de se passer quelque chose. C'est qu'à cet instant précis, puisqu'Ananias lui dit « mon frère », c'est qu'ils font partie de la même famille, la famille de Dieu. Et il nous est dit qu'il lui impose les mains, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Tiens, encore un truc intéressant, les écailles, il ne voyait pas, il était aveugle. Est-ce que c'est pas l'image, bon il était vraiment aveugle, hein, mais est-ce que c'est pas l'image de la méconnaissance? L'aveugle dans la Bible représente toujours celui qui ne sait pas, parce qu'il ne voit pas, il ne voit pas. Donc il ne voit pas la solution, il ne voit pas le plan de Dieu, il ne voit pas, il ne voit rien. Et là, d'un seul coup, les écailles tombent de ses yeux. C'est-à-dire que Paul, bien sûr, il recouvre la vue physique, ses yeux fonctionnent de nouveau, mais ça veut dire aussi... Il acquiert la connaissance, la fameuse connaissance dont je vous parle depuis tout à l'heure. D'un seul coup, il comprend, il sait, il apprend, il a l'intelligence de quoi ? De l'immense amour de Jésus pour lui. Quand je dis immense, dites donc, il est en train de persécuter le corps du Christ. Il a fait enchaîner, enfermer, emprisonner des chrétiens. Quelques jours avant encore, et là il était sur le point de faire une razzia sur Damas de tous les chrétiens qu'il pourrait trouver. Et Jésus lui guérit de sa cécité, lui adresse une sorte de bénédiction. Un peu avant, le Seigneur dit à Ananias, va, alors Ananias il n'a pas du tout envie hein, de rencontrer Paul, hein. Il dit, oula mais Seigneur, tu n'es pas au courant là, c'est un persécuteur, moi je veux celui-là, non, je ne veux pas le voir. Et le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Pour le coup, je vais vous dire, pour moi, il n'y a aucun doute, Paul, c'est le plus grand évangéliste, après Denis, le plus grand évangéliste que la terre ait porté. Grâce à Paul, ce type tout seul, il a évangélisé tout le bassin méditerranéen. Alors bien sûr, après, il y a eu des disciples, etc., mais il y a à l'origine. Et c'est pas fini, et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Alors ça, c'est déjà moins réjouissant pour Paul. Mais, en même temps, vous voyez la dimension de confiance que Dieu a dans cet homme. C'est une marque honorifique. Moi, quelque part, je dis, mais si Dieu pouvait me témoigner autant de confiance, j'en serais... Oh, bon, même s'il faut passer par la souffrance. Alors, vous voyez le processus. Et qu'est-ce qu'il est dit après ? Il se leva, au moment où les écailles tombent de ses yeux, il se leva et fut baptisé. Alors donc là, c'est clair, il a demandé le baptême, il est fait partie de la famille de Dieu. Alors voyez bien, je résume le processus. Au départ, il y a méconnaissance. Paul était un homme rempli de zèle pour le Seigneur, mais complètement à contresens. Il allait persécuter les chrétiens qui pensaient être une secte hérétique qu'il fallait absolument exterminer. Bon, deuxième temps, Dieu se révèle à lui, Jésus se révèle à lui. Troisième temps, il entre dans la famille de Dieu au moment même où il comprend, il acquiert la connaissance de l'amour de Dieu pour lui et pour l'humanité. Et alors après, vous voyez un peu ce que ça a donné. Vous voyez le ministère extraordinaire de Paul, ses lettres, toutes ses épîtres, tout ce qu'il écrit à toutes ces églises qu'il a fondées. Enfin, c'est quelque chose d'absolument éblouissant, extraordinaire. Et vous voyez, quand Paul parle d'un mystère insondable, le mot est encore faible. Insondable, ça veut dire dont on ne peut pas mesurer la profondeur. Voilà. Eh bien, là-dessus, il faut considérer que cette famille de Dieu, elle n'est pas uniquement bénéfique à chaque individu que nous sommes. Elle a aussi une vocation extraordinaire. Vous savez, il y a quelque temps, on avait médité sur le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et l'une des conclusions, c'était que l'Église, elle est un petit peu la partie émergée de l'iceberg qui est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de phénoménal, formidable, mais on n'en voit qu'une toute petite partie, et c'est l'Église. Alors parfois, ce n'est pas une bien jolie partie, c'est tout ce qu'on en voit pour l'instant. Et c'est vrai que si dans l'Église, on partage l'amour entre frères et sœurs, etc., on donne une image de ce que sera le reste de l'iceberg qui est sous l'eau, une image formidable, eh bien, on est de nouveau dans cette thématique, c'est-à-dire que la famille de Dieu, elle a cette mission de représenter l'immense amour de Jésus-Christ pour l'humanité. C'est à la fois merveilleux et à la fois une énorme responsabilité. Vous vous rendez compte que si une église comme la nôtre, elle ne joue pas ce rôle de représenter cet amour du Christ, qu'à travers nous, on ne voit pas ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de cet amour du Christ pour les hommes, eh bien, on a du souci à se faire, il faut s'interroger, les enfants. Il faut s'interroger. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.